un sujet qui nous paraissait assez central pour démarrer ces deux jours, c'est la question de la place de l'instrument de musique dans le processus de création musicale. Donc la question de la place de l'instrument dans le processus de création musicale. Donc vous allez voir, j'ai autour de moi trois personnes avec des profils tout à fait différents et du coup des approches différentes mais qui se rejoignent sur pas mal de points, je pense. Donc ce que je vous propose, c'est que chacun réponde un peu à cette question de la place de l'instrument de musique. Chacun se présentera à cette occasion et puis on va voir où tout ça nous amène. Bernard, je vous laisse démarrer.
Je veux bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour faire court, je remercie l'ensemble des personnes présentes et l'ensemble des personnes invitantes. Voilà. Je me présente, je m'appelle Bernard Sel, je suis professeur émérite en esthétique et philosophie de l'art à l'Université de Lille. Ma spécialité académique, c'est la philosophie de la musique et plus exactement la philosophie de l'instrument de musique. Donc je suis très heureux de me retrouver parmi vous. J'ai toujours aimé depuis 25 ans parler avec des luthiers, des facteurs d'instruments, des musiciens, des instrumentistes, etc. Et aussi des compositeurs. En discutant, en préparant un petit peu avec Olivier, Fanny et Coraline la table ronde d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'instrument de musique paraissait assez absent des institutions culturelles et n'avait pas le statut de bien culturel. Alors ça m'a beaucoup frappé, parce qu'en philosophie de la musique, c'est la même chose. L'instrument est absent. La philosophie de la musique, je vais être très court, hein, aujourd'hui, que ce soit en France, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, je connais un peu moins, c'est essentiellement trois objets. Ce qu'on appelle l'ontologie de l'œuvre musicale, c'est-à-dire quel est le statut d'une œuvre musicale, est-ce qu'elle est dans la partition, dans l'interprétation, dans la tête du compositeur, etc. Et toutes les questions qui vont avec, l'improvisation, les instruments, enfin l'interprétation historiquement informée, etc. Bon, premier objet. Deuxième objet, ce qu'on appelle la sémantique musicale, c'est-à-dire est-ce que la musique parle d'elle-même, est-ce qu'elle parle du monde, est-ce qu'elle ne parle de rien. C'est très à la mode. Et la troisième grande question en philo de la musique actuellement, c'est le statut de l'émotion musicale. Et les collègues qui travaillent surtout là-dessus travaillent avec des neuroscientifiques en général. Mais dans tout ça, il n'y a pas d'instrument de musique. Il y a quelques exceptions, Dirol Levinson ou Stephen Davis aux États-Unis, bon, quelques autres. Mais l'instrument de musique, au fond, est réduit à être un instrument, c'est-à-dire un objet technique qu'on oublie parce qu'on s'en sert et qu'on ne pense à lui que quand il ne marche pas. C'est le statut des objets techniques. Donc oubli de l'instrument de musique et oubli du luthier. Le travail que je fais depuis une vingtaine d'années autour de ces questions est une sorte de protestation argumentée contre cet état de fait. Je m'en tiens aux idées centrales. Comme je m'occupe de philosophie de l'art, je suis évidemment amené, et ça m'intéresse beaucoup aussi, à m'occuper de cinéma, de peinture, de sculpture et de théâtre. Bon, mais il y a une spécificité de la musique par rapport à tous les arts. C'est qu'elle est le seul art qui produit son matériau. Tous les autres arts trouvent dans la nature ou dans la culture des matériaux. Ça fonctionne ?
J'ai l'impression que ça
va.
On a perdu le son.
Vous m'entendez là ?
Non. Ah oui, là, ça...
Il n'y a plus de micro. Est-ce que vous m'entendez comme ça, sans micro? Oui, oui. Parfait. Bien, on rejoint l'état naturel. Donc, les autres arts trouvent leurs matériaux dans la culture ou dans la nature et un peu de préparation suffit à les faire passer à l'état artistique. La musique, pas du tout. À part quelques exceptions récentes et très intéressantes, la musique ne part pas du chant des oiseaux, du bruit des portes et des cascades, à part quelques exceptions du 20e et 21e siècle. Le musicien doit produire son matériau, c'est-à-dire avant de commencer à faire de la musique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui produise une petite machine destinée à produire un son qui n'existe pas dans la nature, et ce quelqu'un, c'est le luthier ou la luthière, le facteur d'instrument, qui produit des machines qui eux-mêmes produisent le matériau. Je ne veux pas développer, mais il y a un étage de plus dans l'art musical par rapport à tous les autres arts. Bien. La musique ne se contente pas de produire son matériau en général, mais pour que l'œuvre existe, il faut aussi que concrètement, il y ait quelqu'un, alors qu'il n'est plus le luthier, mais l'instrumentiste cette fois-ci, qui produise continuellement le son avec ses doigts, sa bouche, ses pieds parfois, et l'instrument, tout au long du concert, de l'improvisation, etc. Ça fait donc une énorme particularité de la musique. Or, cette particularité, elle est due à l'instrument. Et quand on oublie l'instrument, en philosophie de l'art, quand on oublie l'instrument de musique, on néglige la grande spécificité de la musique. L'instrument, il est toujours présent. Le sculpteur, il pose son ciseau. Le peintre, il pose son pinceau. Et c'est fini, l'œuvre est faite. Mais l'œuvre musicale, pour exister pleinement, a besoin de musiciens, de voix aussi parfois, hein, bon, qui continuellement vont produire le matériau. Donc, alors j'appelle ça de manière un peu pompeuse, hein, excusez-moi, mais la condition organologique de la musique. C'est-à-dire, la musique n'existe que sous condition qu'il y ait des instruments, des organas, des instruments de musique. Voilà. Alors, l'instrument de musique, une fois mis au centre de la musique, pour moi pas de musique sans instrument de musique, c'est un universel anthropologique, on en trouve dans toutes les civilisations et à toutes les époques. L'instrument de musique est très particulier si on le compare aux autres outils techniques. Il est frappé, merci beaucoup, ben voilà, ça marche. L'instrument de musique est frappé, ça ne va pas, il a cette particularité d'être fonctionnellement sous-déterminé. Je m'explique, une voiture, un vélo ou une machine à café est construit selon un cahier des charges, selon une finalité extrêmement précise, faire du café, se déplacer dans l'espace, etc. En revanche, un instrument de musique, il est fait pour produire des sons, oui, mais lesquels ? Au fond, peu importe. L'instrument de musique est déjà là avant que dans un second temps un compositeur, une compositrice ne décide de s'en emparer. Il y a d'ailleurs, comme vous le savez comme moi, énormément d'instruments qui n'ont pas pris. Sax avait inventé une dizaine d'instruments de musique, il y en a deux qui continuent à exister, vraiment le tuban et le saxophone. Les autres sont dans des musées. Bon, pourquoi est-ce qu'un instrument prend ou ne prend pas ? Ça, c'est une question qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais c'est précisément parce que la musique produit son matériau que n'importe quel type de matériau sonore peut être attirant et qu'on continue à construire des instruments de musique. Alors, deuxième remarque qui est liée à la question de la sous-détermination fonctionnelle, c'est le nombre gigantesque des instruments de musique. Le Grove, la grande encyclopédie britannique, compte 12 000 types d'instruments, 2 000 occidentaux, 10 000 non-occidentaux, bon, c'est en gros, hein, bon. Mais enfin, comme la clarinette compte pour un seul instrument dans cette encyclopédie, et que des clarinettes, il y en a 300 types au moins, voilà. Et on continue à en fabriquer. Alors moi, ça me fascine. Il y a 12 000 types d'instruments, mais on continue à en inventer, soit des instruments acoustiques, soit des instruments numériques. Bon, on continue à en inventer, à fabriquer de nouveaux instruments, comme si ce qui existait ne suffisait pas. Ben, en un sens, ils ne suffisent pas. Parce qu'il y a un désir du son, de son œuf, qui amène au désir de produire des machines qui produisent des sons neufs, une sorte de pulsion. Et ça couvre tous les champs des instruments. D'un côté, la lutherie sauvage, vous savez, quand on fait, une trompette avec une bouteille d'eau évidée, bon, et puis voilà, une embouchure, ça marche. Hein. Et de l'autre côté, bon, la lutherie numérique. Je vois que l'IRCAM organise quelque chose ces jours-ci sur, autour des questions de facture instrumentale, et il y a un mot d'ordre pour une des demi-journées, je crois, qui est « fabrique ton instrument ». C'est fascinant, ça. Fabrique ton instrument. Voilà. J'arrive au terme, je crois, du temps qui m'est consacré. Mais on viendra, on discutera, bien sûr. Hein. Pour moi, l'instrument de musique, c'est le bien culturel par excellence, à côté d'autres. Hein. Mais pourquoi ? Parce qu'il est à la fois une archive, donc un document, mais il est aussi un instrument. C'est une archive parce qu'un instrument de musique condense un temps historique, une histoire, une sensibilité, des valeurs qu'on peut discuter, mais je veux dire des significations, voilà, religieuses, sociales, magiques, politiques, absolument énormes. Quelqu'un qui prend une sacboute, par exemple, du 15e siècle, et qui décide de l'étudier dans son histoire, ça a donné le trombone, dans ses matériaux, dans ses significations, les hauts, les bas d'instruments, tout ce genre de questions, c'est une archive incroyable. Je dis la sagoute, c'est le premier exemple qui vient à l'esprit, mais n'importe quoi d'autre. Donc, en tant que document, l'instrument de musique est une source d'information archivistique, archéologique, historique, absolument extraordinaire. Mais l'instrument n'est pas seulement un document, il est aussi fait pour être joué, pour vivre. Et en tant qu'il est vivant et qu'il peut toujours être réactivé, bah, il participe au présent et au futur. Donc il est bien culturel des deux côtés, comme archive et comme instrument de création, de partage. Enfin, je ne développe pas parce que sur ce plan-là, vous êtes... Enfin, j'imagine qu'on est, on est tous d'accord. Donc voilà, la question qui était posée, c'était enjeu central ou matériel annexe. Ben oui, enjeu central, hein, vraiment. Il n'y a pas de doute. Merci.
Merci Bernard. Merci. Alors, passer cette introduction sur le fond, sur un fond philosophique, je propose de passer la parole à Arthène, qui est derrière dans le faire, justement, l'instrument.
Voilà, oui, donc je suis luthière, je fabrique et répare des violons depuis quelques années, puisque j'ai monté mon atelier en 1988, c'est-à-dire loin au XXe siècle. Le violon, c'est un coup de foudre, une rencontre lors d'un concert scolaire, toute petite, quoi, toute petite, pas si petite par rapport au monde du violon, j'ai pas commencé le violon à 5 ans, j'ai commencé à 11 ans, et le concert, fameux concert avait 9 ans. Pour le monde du violon, c'est beaucoup trop vieux, beaucoup trop tard. On ferme cette parenthèse. Enfin, une belle rencontre, un coup de foudre qu'on ne peut pas expliquer, comme tous les coups de foudre, et puis une envie d'aller plus loin avec cet instrument qui m'a toujours fascinée, continue toujours à me fasciner. Alors oui, Bernard a évoqué, effectivement, quand on a commencé à travailler avec Coraline, on a découvert assez vite, parce que c'était quelque chose que personne ne savait et que nous, on ne le savait pas non plus, c'était que l'instrument de musique n'était pas un lien culturel. Donc effectivement, là, on n'avait même pas à savoir si c'est un enjeu annexe ou primordial, c'est que tout d'un coup, on nous déniait cette dignité de bien culturel et donc c'est un objet consommation courante, sauf quand, par le hasard de sanctions contre la Russie, dans les premiers volants de sanctions, on a découvert que l'instrument de musique était un bien de luxe. Oui. Ça nous a commencé à faire très très peur. C'était pas le fait qu'on n'ait pas le droit d'exporter les instruments vers la Russie qui était un problème pour nous, mais que ça soit qu'on soit catégorisé. C'est un parti ? Le son ?
Non, c'est bon.
Qu'on soit catégorisé comme bien de luxe. Enfin, je reviens. Donc, il y a ce sujet-là. L'autre sujet auquel on a été confronté, c'est notre envie, notre souhait, c'était que nos professionnels, notre filière, notre secteur, ils trouvent sa place dans la filière musique. Et là, en entamant une discussion, on a compris qu'on se situait quelque part entre le niveau de détail et le matériel annexe. C'est vrai que c'est fort plus satisfaisant, oui. Mais c'est très bien, ça fait réfléchir et ça fait converger. Alors je reviens à la question, et je vais parler de là où je suis, pour un luthier, donc je suis luthière, mais cette logique, elle va s'appliquer pour tous les créateurs d'instruments, quel que soit le nom de leur métier. Ben nous, on est les inventeurs de la musique, il faut le savoir quand même, de là où on est. L'atelier, la page blanche, elle se commence, il y a des morceaux de bois sur une étagère. Et puis il y a un échange silencieux, il y a le rêve du luthier, c'est le champ des possibles qui s'ouvre, avec la singularité de chacun, parce que chaque arbre a sa singularité, et qu'on va assortir des morceaux de bois, donc les singularités doivent se répondre pour arriver à cet objet. Donc là, je parle du violon, mais les histoires pourraient se dupliquer avec d'autres instruments. Et ces arbres, ils ont été abattus depuis des années, ils sont là. Et commence ce dialogue silencieux, c'est un face-à-face immense, c'est le champ des possibles, je vous l'ai dit. Et la musique qui sonne déjà au moins, parce que nous, on fait des métiers de la musique, quoi qu'en pensent les autres. Et le musicien imaginaire ou réel, il est déjà dans le décor, soit parce qu'il a accordé l'instrument, soit parce qu'on pense au musicien derrière, parce que donc, quand on conçoit un instrument, on pense toujours au musicien. Alors, le musicien est dans le corps, mais le lien entre le luthier et la matière, il est fort et essentiel, et tout commence là. Et si vous interrogez le luthier à cet instant-là, il vous dira que la musique, elle est là, elle commence là, et elle ne peut pas se faire sans. Mais je sais qu'on est très auto-centré, je suis très au courant. Hein. Et ça, cette, tu en as parlé, cette pulsion que l'homme a pour fabriquer des instruments, elle est là depuis la nuit des temps, qui répond à la pulsion de l'homme musicien, qui depuis la nuit des temps fait de la musique. Alors, sitôt que l'instrument surgit, on sort de la fantasmagorie, on arrive dans le réel, et là, le lyre prend sa place. Donc, il est au service du musicien, il est au service de la musique, et il s'efface, il va disparaître, pour que l'instrument s'empare, le musicien s'empare de l'instrument, et que la musique puisse continuer à résonner. La lutherie en France, elle a été particulièrement flamboyante et particulièrement importante pour la vie musicale entre la fin du 18e et, 19e, et le début du XIXe, ouais, même tout le 19e siècle, on peut dire. C'est elle qui a construit le paysage musical du 19e siècle, qui est largement notre paysage musical. Le 21e siècle ouvre vraiment d'autres portes, mais pendant deux siècles, ce paysage a été façonné. Je cite quelques exemples. François-Xavier Tourte, je serais arrivée à parler d'Archet. L'archetier qui a inventé l'archet moderne, l'archet tout au long de l'époque baroque, enfin toute l'époque ancienne, de musique ancienne, n'a pas été un objet fini. Les archets ont été constamment en évolution. Et puis il y a eu une demande qui émergeait, une demande esthétique qui différait, qui était ben justement de pouvoir s'exprimer. C'était. C'est ce qui a amené le tour dedans, puis le romantisme. Il fallait pouvoir moduler, construire le son, donner encore plus d'expressivité. Et donc François-Xavier Tourte, il a cherché, comme tous les autres, ce qu'il avait autour de lui comme bois, parce que les archets étaient faits dans tous les bois possibles et imaginables, et puis il en a trouvé un. Et puis il a mis au point ce modèle d'archet, qui est l'archet moderne, qui est fait avec ce bois, qui s'appelle le Pernambouc. Des enjeux là-dessus, et qui permet aux musiciens de construire ce son, de faire des pianos, des fortissimo, d'aller très vite, de faire plein de mouvements techniques qui étaient impossibles à faire ça. Chose quand même extraordinaire à une époque où il n'y avait pas les GAFAM, le marketing et tout ce qu'on peut penser. En l'espace de 20 ans, cet archet s'est imposé au monde musical entier, c'est devenu. Et cet archet, il a permis, d'une certaine façon, la création de l'orchestre symphonique. C'est quand même une importance énorme. Et c'était un monsieur, un archet, et 20 ans après, c'était fait. Ignace Pleyel, qu'on connaît, c'est tout ce qui est. Et on peut citer Erard, mais Erard, on pourrait le citer pour la harpe. Ignace Pleyel, ils ont travaillé sur la mécanique du piano, toujours cette recherche d'expressivité entre le piano et le forte. Le clavecin, c'était génial, mais le clavecin ne permet pas de faire des pianos des fortés. Et du coup, est arrivé ça. Et bien sûr, Louis-Auguste Buffet, qui a transposé les mécaniques que M. Beau avait inventées pour les flûtes à la clarinette. Et puis, Adolphe Sax, on en parlait. Le Belge, on dit souvent qu'il fait partie de la facture instrumentale française, parce qu'il s'est installé à Paris. Alors, il faut savoir quand même que c'est le saxophone, c'est à la fois une grande réussite et un raté complet de Monsieur Sax, parce que Monsieur Sax, en fait, avec son instrument, il était persuadé, et Berlioz et d'autres étaient persuadés avec lui, qu'il allait remplacer un grand nombre d'instruments, ce qu'on appelle la petite harmonie, l'instrument avant de l'orchestre symphonique, parce qu'il avait un instrument extrêmement égal, plus facile à jouer, etc. Ça a complètement foiré son histoire. Mais en revanche, l'instrument, il s'est imposé à sa manière, il a trouvé son chemin, les harmonies, toute la musique pour cuivre, et évidemment le jazz et tout ce qu'on peut penser, toute la musique qui a. Donc le luthier inventeur, il propose aux musiciens un instrument, c'est une porte ouverte sur des sons qui étaient jusqu'alors, qui n'existaient pas, c'est l'inventeur de cette nouvelle fenêtre sonore, mais si ces sons n'intéressent pas, ne conviennent pas aux musiciens, alors, s'il n'y a pas de répertoire, alors l'instrument, il reste mort-né. C'est un objet sonore, on peut dire ça. Au mieux, il finira dans une vitrine. Au pire, quoi, autrement, il sera oublié, il passera. Et donc, on voit bien que là, même si le luthier, au fond de son atelier, il pense qu'il est le centre de la vie musicale, de fait, le musicien est quand même sympa. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est le compagnonnage entre le luthier et le musicien. Là, je vous ai parlé de la première partie où le musicien est un peu loin. Et puis, en fait, luthiers ou facteurs et musiciens, ils sont proches tout au long de leur vie, de leur parcours, parce que il y a tout un cycle vie de l'instrument qui fait que l'instrument, il ne va pas arrêter d'aller et venir entre les mains des uns et des autres. Et ça, c'est une dimension très, très importante. Mais dans cette dimension... Et dans cette dimension de compagnonnage, commence à apparaître une autre dimension qui est le luthier, c'est un homme de la musique. Et donc, ce métier de la musique, c'est comme beaucoup de métiers de musique, il n'y a que le musicien sur scène. Et son devoir professionnel, c'est de s'effacer, c'est de disparaître. Et là, on a peut-être une des explications pour lequel, qui explique pourquoi on a tant de mal à mettre ce sujet au cœur des discussions et nous être intégrés maintenant dans des discussions de filière tout à fait propres au XXe siècle, au XXIe siècle, c'est que ça fait des siècles et des siècles qu'on s'efface et que justement tout notre art consiste à disparaître. Il n'y a plus que l'interface entre le musicien et l'instrument et non plus nous. Ah ben je suis très fâchée parce que mais je pense. La suite, ça sera pour tout à l'heure, je laisse la place. Puisque je me suis effacée pour le musicien, je vais laisser la place à Olivier.
Merci, Fanny. On va passer justement avec Olivier à la partie de la création.
Oui, merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Olivier Delemagne, je suis compositeur et quand j'ai un peu de temps libre, la musique me laisse un petit peu de temps libre, j'ai quelques autres activités connexes. Je suis notamment, ça fait toujours un drôle d'effet de le dire, président de la Caisse nationale de retraite des artistes auteurs. La retraite, vous savez, je vais tout de suite balayer quelque chose, je sors un peu du sujet. Oui, on en aura une et des bonnes retraites. Et c'est important de cotiser. J'exerce aussi une autre fonction, je siège au conseil de surveillance de la SACEM. Vous voyez, des trucs extrêmement sérieux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a parlé du périmètre des ICC, des industries culturelles et créatives. Et dans le dernier rapport de EY, donc EY qui fait des rapports notamment... qui est à l'origine du tout premier rapport sur le poids des industries culturelles et créatives en Europe, dont on s'est servi en 2017 pour mettre à genoux Google et les obliger à payer une contribution en droit d'auteur. Ça, c'est un combat gagné. Voilà, on en gagne quand même quelques-uns. Dans le dernier rapport EY, il y a une chose qui m'a un petit peu étonné, c'est que autant la granularité des différents métiers de la musique, à la fois l'édition musicale, qui est une partie création, que la distribution de la musique à travers le phonographique. Vous savez, le phonographique, c'était avant les CD, maintenant c'est les plateformes. Et en fait, un phonogramme, c'est pas un objet physique, hein, parce qu'au terme du code de la propriété intellectuelle, c'est une suite de sons, mais c'est des définitions curieuses. En tout cas, il y a tout ce panorama, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, il y a les salles de concert, mais il n'y a pas les luthiers, dis donc. C'est marrant ça, il y a très très peu. Et alors il y a une autre chose, il n'y a pas non plus les créateurs. Il y a très peu de choses sur le volume. C'est un rapport qui parle de pognon, hein, qui parle d'oseille, c'est le poids des industries. Il y a très peu de choses sur les droits d'auteur. Bien sûr, on parle de la SACEM, on parle toujours de la SACEM, mais on ne parle pas de cette chose-là, des autres, des orchestres, des gens qui vont jouer dans des petites salles, dans des plus grandes salles, toute cette économie. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la réalité, aujourd'hui, quand on est compositeur, ou musicien, ou interprète, ou alors... artiste, parce que là aussi on a beaucoup de problèmes de sémantique pour définir qui est qui et qui fait quoi, et bien négliger notamment ces aspects qui moi m'intéressent, les aspects sociaux, comme stratégie de carrière, c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire face, j'avais dit que je ne dirais pas le mot aujourd'hui, mais je le dirai qu'une fois, à l'arrivée notamment de l'intelligence artificielle. Okay. Ça c'est fait, je l'ai dit, on n'en parle plus. Alors je reviens à mon métier, compositeur, mon métier c'est d'écrire la musique. Alors de l'écrire avec du papier à crayon, de l'écrire avec une souris, un trackball, et de l'écrire avec tout ce qui peut me tomber sous la main comme instrument. Le matos, quoi. Moi, j'adore le matos. Alors, vous voyez, ça c'est mon délire. Voilà, donc le synthé modulaire. Alors j'aime beaucoup l'idée de fabriquer son instrument, parce que finalement, il y a un petit peu de ça. Hein. J'ai mon train électrique à disposition, mais tant que je n'ai pas monté les rails, installé les gares et mis en route la locomotive, ça ne fait rien. Mais ça, ce n'est pas du tout antinomique. Vous voyez, le petit coin, là, il y a aussi des petites choses acoustiques et électroacoustiques. Et il y a ces nouveaux instruments et cette nouvelle lutherie, même si franchement tout ça c'est pas nouveau, hein. Ça existe depuis très 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 longtemps. Mais en tout cas, la manière de le remettre en forme est très intéressante. Il y a quand même de nouveaux instruments.
Vous irez voir la démonstration de Grégoire tout à l'heure sur le continuum fingerboard, associé à, alors je le dis avec beaucoup de tendresse, à un bout de bois, pardon, un résonateur, pardon, créé par Christophe Duquel, la voix du luthier. C'est absolument stupéfiant. Et là, vraiment, on est dans la nouveauté. Alors, je reviens à cette question d'écrire et de création. Comment elle vient comment l'idée? Alors, l'idée, vous savez, je marche de la gare de Pardieu en allant vers l'auditorium, et là, le soleil sur mon front me donne une idée, je me jette sur un papier à crayon et j'écris quelques notes. Ça peut. Ça m'est pas arrivé aujourd'hui, mais je dis quand même le voyage de retour. Mais si effectivement j'ai à nouveau synthé une guitare, je joue très très mal de la guitare. Moi, j'ai fait piano et trombone. Vous voyez, la guitare, je sais pas dans quel par où vous soufflez, comme le violon. Mais j'adore ça. Et c'est cet aspect-là. Et ça donne vraiment envie. Alors, vous savez, il y a une autre chose qu'il faut jamais hésiter à faire un petit peu sa promotion. Tout ça, je le décris dans les excellents livres de Bernard, bien sûr. Et moi-même, j'ai dans un excellent livre que vous trouverez là où je décris ces phénomènes, préfacé par Alguenet, et donc en plus expert de ces nouvelles, quoi qu'on en pense, de ces nouvelles lutheries et précurseurs dans plein de domaines. Alors je reviens à mon histoire d'instrument. Oui, ça c'est quelque chose qui est... j'arrive pas à le décrire. Vous savez, c'est le à la fois tous les amours et toutes les haines. Pendant longtemps, quand sont arrivés les DJ, on a dit non, mais attendez. Dire que le DJ est compositeur, c'est dire que le gars qui fait les photocopies est écrivain. Vous voyez, ils n'ont pas aimé qu'on leur dise ça. Et puis c'est pas vrai, en fait, la réalité, parce qu'on s'y intéresse et on voit l'appropriation de l'instrument platine qui met en forme de la musique déjà mise en forme, commence à se compliquer, et bien ça crée quelque chose de nouveau. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, un son, il y aura dans quelques semaines à Nantes un événement formidable qui s'appelle le Sinfest, c'est la 11e ou 12e édition, où là il y a tous les dingos de ce genre de choses et de tout autre truc qui se rassemble. Et on dit, il n'y a rien de nouveau, ça reste un synthé, une guitare, ça reste une guitare. Non, pas du tout. Même la couleur peut donner envie de jouer dessus, ou pas du tout, donner envie de jouer dessus. Même la forme, on peut s'exprimer. Et ça, c'est un truc qui est fondamental. Et vraiment, il faut qu'on arrive au sein de ce monde compliqué où on doit faire beaucoup de métiers différents, arriver à intégrer tout le monde, parce que clairement, l'instrument, c'est un facteur d'unité. Et pour conclure, justement, sur mon introduction sur le rapport des ICC, ce qui m'avait beaucoup amusé de... Très souvent dans les études, on partage ça avec Fanny. Alors, on est quand même heureusement compositeur, c'est un peu plus présent que luthier. Hein. Mais quoique, je me rappelle de la mission qui visait à la création d'une maison commune de la musique, qui est devenue après le Centre national de la musique. Il y a eu un rapport très très bien fait sur ce qu'allait être un futur Centre national de la musique. Il y avait un mot qui manquait dans tout le rapport, un seul: compositeur. Parce que franchement, sans auteur, sans compositeur, c'est pas sûr qu'il y ait des œuvres. Et alors sans œuvre, je pense qu'il n'y a pas d'économie de la musique, moi. Voilà. Peut-être ne partagez-vous pas mon point de vue.
Si, tout à fait. Je ne sais plus si le mot lutherie faisait partie de ce fameux rapport, mais c'est un grand sujet de cette année.
Je spoil, hein. Non.
Oui, voilà. On est d'accord, même ou pas. Merci beaucoup Olivier, on a déjà pas mal de choses. On a tourné déjà pas mal de fait, on tourne toujours un peu autour de la question du musicien.
Il faut faire des micros carrés, comme ça ils ne roulent pas.
Bernard, est-ce qu'on n'évoquerait pas un peu la question du musicien dans tout ça, du musicien, du lien musicien-instrument?
Alors, votre question est très très ouverte.
Tout à fait. Je vous laisse tirer un fil.
Il n'y a pas d'instrument sans amont et sans aval. Sans aval. En amont, c'est le luthier, la luthière, etc. En aval, c'est le musicien, la musicienne, l'instrumentiste. Il faut les deux. Le compositeur, ça peut être le musicien lui-même, il peut improviser. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui invente et qui mette en forme. Donc un compositeur instantané, c'est l'improvisation, selon des patterns, etc. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ou alors le compositeur qui écrit sur un support quelconque. Moi, du point de vue, comment dirais-je, moi je suis organocentré. C'est-à-dire un instrument de musique est vraiment au cœur de ma perception de la musique, et ensuite par extension même des autres arts. J'ai tendance à rendre l'instrument de musique un peu impérialiste. L'instrumentiste, en général, il n'a pas fabriqué l'instrument. Il l'a trouvé et il a passé, Richard Sennett dit qu'il faut 10 000 heures, bon, c'est un ordre de grandeur, mais pour jouer de manière professionnelle d'un instrument acoustique classique, ça veut dire qu'il y a passé 10 ans en travaillant 3 heures par jour. Donc, il y a un corps à corps avec l'instrument et un façonnement mutuel de l'instrument. Et du coup, là, j'ai une petite théorie que j'appelle la théorie des quatre corps, qui consiste à dire que l'instrumentiste a son corps naturel comme vous et moi, mais un corps apte à jouer d'un instrument spécifique qu'il a bâti peu à peu en travaillant ses muscles, enfin bref. Bon, l'indépendance, moi j'ai fait de l'orgue dans ma jeunesse, l'indépendance des pieds par rapport à la main gauche, j'ai toujours trouvé ça très compliqué, mais un violoniste n'a pas ce problème. L'instrument de son côté, il a un corps physique, il peut être abîmé, on peut taper sur un violon, ça rend un son, etc. Mais c'est pas son corps musical. Son corps musical, c'est d'être apte à jouer les sons, d'ailleurs très variables selon les cultures musicales. Bon, si c'est du jazz manouche, c'est pas la même chose que le concerto de Mendelssohn. Mais dans les deux cas, le violon, voilà. Et donc, il y a une sorte de co-travail du violoniste et de son violon, pour prendre cet exemple, qui fait que le violoniste élève ou transforme son corps naturel en corps musicien, de l'autre côté, le violon est réduit ou plutôt porté à jouer les sons et seulement les sons qu'on attend de lui. Je ne sais pas si vous voyez qui était Bayot, le grand violoniste à la charnière du 18e, 19e siècle. Il y a une lettre de lui que j'aime beaucoup, qui doit dater de 1820, mais je dis ça un peu au hasard, où il compare son violon à un cheval. Et il dit, c'est une sorte de... Il dit, j'ai plus la lettre en tête, hein, mais il dit, je dois le dompter en permanence, de temps en temps il m'emmène là où je ne veux pas, mais c'est quand même moi qui ai toujours le dessus. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu dans le style romantique, mais que je trouve assez intéressant. Voilà. Donc, il y a un moment où le violon et le violoniste ne font, pour ainsi dire, plus qu'un. Alors, j'ajoute une dernière chose que vous ne m'avez pas demandé. Que devient la voix humaine ? On m'a souvent objecté, les philosophes aiment beaucoup la voix, ils sont vocalistes, pour eux, la musique, c'est la voix de l'âme, etc. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis un peu plus matériel de ce point de vue-là. Mais enfin, la voix appartient évidemment à la musique, hein, je ne dirais pas le contraire. Mais ce qui me frappe, après des tas de discussions avec des chanteurs ou des instrumentistes, c'est que l'instrumentiste, il a tendance à intérioriser, à vouloir faire de son instrument le prolongement de son corps, à faire comme si ça lui appartenait. Et il me semble que le chanteur, c'est l'inverse. Il tente à traiter sa voix comme un instrument, d'ailleurs les compositeurs l'aident aussi parfois, parce que Bach, de temps en temps, fait comme si la voix de soprano était une trompette, puis qu'elle se débrouille, ou qu'il se débrouille, quand c'était des garçons qui chantaient, des jeunes garçons. Je veux simplement dire que le chanteur a tendance à extérioriser sa voix comme si c'était un instrument, et que l'instrumentiste a tendance à intérioriser son rapport à l'instrument comme si c'était sa voix. Voilà. Je ne sais pas si c'était exactement votre question, mais...
Merci. Fanny, est-ce que tu veux...
Oui, je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette disparition. Parce que Bernard l'a un peu évoqué. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, le luthier finit par disparaître du paysage, parce que c'est ce qu'il veut faire, c'est pas être au centre. Et effectivement, le musicien, il finit... Ou l'instrument, on ne sait pas lesquels des deux disparaît, se font pour faire cette production musicale. Et je pense que c'est une partie importante de notre métier. Paradoxalement, le violon, c'est le centre. Les instruments, ce sont le centre de nos vies, de nos intérêts. Je suis la première à taper du pied quand on n'est pas autour de la table du CNM, quand il manque une ligne, instrument de musique, dans je ne sais quel formulaire où on a parlé de tout sauf ça, quand on dit que je suis pas de la culturelle. Mais en fait, nous, on va, dans la façon dont on accompagne le musicien, en fait, on va lui apprendre à s'approprier le son. C'est-à-dire qu'au-delà de la facture instrumentale, il y a aussi, et là on aime bien ça faire ça quand ils sont déjà assez petits, les musiciens, c'est leur apprendre à écouter et aller chercher ce qu'il recherche comme son. Alors ça, c'est pour ceux qui viennent pour jouer d'un instrument, et quelquefois on a des gens qui poussent la porte, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui faisaient la musique à l'image, un sourd qui cherchait à comprendre quelle vibration il pouvait être. J'ai eu aussi, alors ça c'est pour les plus anciens d'entre nous, mais j'ai eu Raymond Devos qui est en tournée à Nantes, qui a passé la porte parce qu'il jouait plein d'instruments, puis l'un jour là il avait décidé de passer au violon, donc il s'est venu chercher un petit violon chez nous. C'était sympa, mais tout ça pour dire que notre fonction c'est aussi d'aider le musicien à découvrir un nouveau champ sonore, se l'approprier, avoir une écoute critique de ce champ sonore de manière à pouvoir déterminer ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, et c'est quelque chose qui est important, mais c'est toute cette partie où je vous parlais de cette disparition où le luthier doit se mettre en arrière. Pour laisser la pire des choses, c'est le luthier qui aime tellement son instrument, le maîtrise tellement, qu'il veut imposer sa vision sonore à ses musiciens. Pour moi, c'est la faute professionnelle très lourde, on est complètement dehors du champ. On est là pour que le musicien puisse s'approprier ce son sonore, et puis avec ce truc complètement dingue qui est que chaque fois qu'on crée un instrument, on crée un monde sonore qui n'existait pas avant. C'est quand même dans notre monde qui est très fini. Hein. Ok, on va faire le tour de la Terre, de la Lune maintenant pour aller voir d'autres choses qu'on n'a pas trop vues, mais en fait on a déjà vu les images, en fait on les connaît déjà. Et ben, l'univers sonore qu'on peut constituer avec ces instruments, c'est des choses complètement inédites, et il reste, et c'est sans doute pour ça qu'on continue à le faire, qu'on continue à découvrir. Et notre rôle à nous, c'est de façonner l'objet, mais c'est aussi d'ouvrir ses portes et d'ouvrir. L'attention du musicien vers quelque chose d'autre dans lequel il va pouvoir se projeter, il va pouvoir composer, écrire de la musique.
Alors, si vous passez un petit peu de temps sur Internet ces temps-ci, alors entre la guerre en Iran, le tour de la Lune, il y a un truc auquel vous n'avez certainement pas pu échapper, c'est le groupe du moment, l'événement musical du moment, Angine de Poitrine. Angine de Poitrine, si vous ne connaissez pas, allez voir. Donc, l'idée, c'est quand même un petit peu de reléguer Frank Zappa au niveau de Richard Lederman, hein, Angine de Poitrine. Tout le monde s'essaye à faire ce que fait Angine de Poitrine. Il y a une particularité, c'est que donc, c'est une musique beaucoup basée sur une microtonalité, une polyrythmie, et dont y a un luthier qui a fabriqué cette fameuse guitare basse à deux manches avec ses frettes permettant les microtonalités. Tout le monde va s'essayer à faire ça. Mais pour faire ça, il faut l'instrument. Et donc j'ai lu que le fabricant, il était sold out sur les commandes. C'est-à-dire, tout le monde veut y aller, on veut faire ça. Et pour faire cette musique, il faut cet instrument. Donc c'est quand même l'interaction, là, elle est totalement évidente. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on aura l'instrument, on arrivera à bien jouer. Malheureusement, s'il suffisait d'avoir un bon instrument pour faire. Mais est-ce que vous disiez, Bernard, sur la voix, il y a la dimension, moi j'ajouterais, vous avez compris mon truc, c'est un peu la tech, la technologie, même si technologie est un mot anglais, hein, comme vous le savez. La technique, on va dire, réellement, dans le monde des musiques populaires, musique actuelle, en tout cas musique enregistrée, bien sûr, il y a eu un élément qui a été fondamental dans toute l'évolution de la musique chantée, c'est la manière de la capter. Et quand on est passé du cornet qui gravait phonogramme par phonogramme sur des rouleaux de cire à des micros extrêmement polyvalents qui avaient des et en même temps très spécifiques, on est passé à autre chose. Et c'est toujours intéressant de voir la relation qu'a le chanteur ou la chanteuse en studio avec le micro qu'on va lui mettre devant. Alors vous savez. Si vous allez dans les studios, si vous faites de la musique, vous avez vu des images. Le plus grand ennemi de l'ingénieur du son par rapport au micro, ce sont toutes les plosives qui font des gros p. Et là, je vois que l'ingé son a dit un bon coup de bas, donc il y en a beaucoup moins. Bravo, félicitations. Donc on met généralement dans le studio un coup de vent, alors bricolé à l'ancienne, ou avec un collant, ou plutôt quelque chose à double pot, très, très, très technologique. Néanmoins, qu'est-ce que voit le chanteur? Il voit un rond noir devant lui. ça ne lui donne pas forcément envie de chanter. Et pendant des années, moi, je me suis battu avec ça en disant, non, on ne va pas mettre le couvreur, tu ne te rends pas compte, ça va être une galère, on va pouvoir mixer, on va avoir des pays. On refera. Parce que le micro, ce rapport avec le micro, qui est parfois un rapport extrêmement charnel, beaucoup de chanteurs et de chanteuses sur scène, on ne leur met pas n'importe quoi comme micro. Il y a le culturel. Hein, ce n'est pas un SM58, ce n'est pas du rock, hein, pour ceux qui connaissent ce micro-chose. Ce n'est pas le 55, il n'y a pas le côté vintage des années 50. Et c'est important, et ça conditionne aussi la manière de chanter, parce que c'est le premier contact visuel. Est-ce que vous disiez dans le prolongement, oui, j'ai plus souvent vu des chanteurs ou des chanteuses où la plus grande difficulté était, pardon pour l'expression un peu triviale, de se mettre à poil pour chanter, alors que l'instrumentiste va pouvoir un petit peu se plonger dans son instrument, enfoncer la tête dans son violon, même si c'est pas pratique pour jouer, en fait, avoir son piano et puis fredonner. Il y a quelques pianistes chanteurs, mais qui ne chantent pas, mais qui jouent du piano en chantant. Enfin bon, je m'égare. Vous voyez cette chose-là. Et ça, on ne l'a pas pour la voix. Il faut que ce soit direct et il n'y a pas trop d'artifice. Même si on sait qu'il y a beaucoup de retravail en studio, qui n'est pas parce qu'il y a de mauvais chanteurs, mais tout simplement parce que la particularité de la musique enregistrée, c'est qu'on l'écoute, on la réécoute, on la réécoute, on la réécoute, on la réécoute. Donc un tout petit défaut qu'on aurait laissé passer, vous connaissez tous ça par cœur, c'est pour toute la vie. Alors que le live, ça avance. Donc il faut faire attention, et c'est là où on sort les autotune, Melodyne, c'est ces choses qui permettent de sur-recorriger et maintenant on a de la musique qui est surjuste.
Oui.
Finalement, la musique un peu fausse, c'était pas si mal.
On a prévu de garder un petit moment à la fin si vous avez des questions. Et du coup, en attendant ce moment-là, je voulais vous poser, donc on avait évoqué l'idée que vous réfléchissiez sur ce sujet-là, quels pouvaient être les sujets à creuser, enfin, les questions qu'on pouvait se poser autour de ce sujet de la place de l'instrument de musique, quelles seraient pour vous les pistes à explorer sur ce vaste sujet.
Vas-y.
Ouais, c'est moi, je garde la main.
Vas-y.
Bah, y a clairement l'angle économique est fondamental. C'est que il n'a jamais été, en tout cas dans tout ce qui est nouvelle lutherie électronique, les instruments n'ont jamais coûté si peu cher. Il n'y a jamais eu autant de possibilités et d'accessibilité. Donc ça, c'est à la fois une bonne chose, mais c'est un travers. Et là, j'anticipe sur certains points de table ronde que vous allez avoir un peu plus tard, c'est que finalement, bah, ça devient un petit peu jetable. Et qu'il y a de moins en moins d'instruments qui sont l'instrument d'une vie. Alors, j'ai pas le recul sur ce que j'ai acheté. J'ai des synthés que j'ai depuis très longtemps. Mais il y a des instruments d'une facture plus traditionnelle, chère Fanny, que j'ai depuis toujours. Et il ne me viendra même pas l'idée de les revendre. Alors que le reste, ça peut tourner. Même si souvent, je regrette de l'avoir vendu, c'est des choses dont je me sentais. Petit exemple, il y a une époque où j'aurais payé des gens pour me débarrasser d'un MS-20 Korg. Maintenant, si je pouvais en racheter un à moins de 2000 euros, je serais vraiment content. Vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a ce côté, on n'anticipe pas ça, parce que c'est un bout de ferraille avec des boutons, et qu'on a mis un peu de temps, enfin en tout cas j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était plus que ça, le jour où il a été, le bout de ferraille avec les boutons, a été remplacé par un truc qui fallait bouger avec la souris qui file des tendinites au poignet.
Vas-y.
Alors, moi, la question, effectivement, de la place des professionnels à facture instrumentale dans le paysage est quelque chose, je dirais que quelque chose qu'on s'approprie, c'est un travail qu'on mène. Moi, le sujet, vraiment, c'est pourquoi diable les musiciens ont-ils collectivement oublié que les instruments de musique étaient quelque chose de fondamentalement utile, voire totalement essentiel. Et pourquoi dans les discussions collectives, quand nous ne sommes pas dans la pièce, et c'est, vous l'avez compris, c'est très souvent, la question de l'instrument de musique n'apparaît pas. Il faut que la SNCF condamne les contrebassistes à payer des amendes outrageuses pour que tout d'un coup l'objet instrument de musique ressonne aux oreilles des organisations, à la fois des employeurs de spectacle vivant et des musiciens. Mais ces mêmes personnes sont capables d'aller se battre comme des lions avec les SNCF pour obtenir cette petite autorisation. Mais en même temps, ils vont être dans une table ronde pour porter une voix européenne sur la mobilité du musicien, portée par notre vénérable institution qui est la Maison commune de la musique. Et je suis arrivée après coup, donc je me suis fait envoyer le compte-rendu de ces réunions. Et je suis littéralement tombée de ma chaise parce qu'ils ont discuté des heures sur les enjeux de mobilité des musiciens et il n'y avait pas marqué le mot « instrument de musique ». Et les mêmes étaient en train de discuter et se battre et sont encore en train de discuter avec les compagnies aériennes pour faire bouger les lignes. Donc il y a quelque chose de l'impensé du musicien par rapport à son instrument de musique, il est phénoménal. Et pour moi, là, il y a quelque chose à aller chercher pour éveiller ses consciences. Alors, pour l'instant, comme j'ai deux enjeux, qui est à la fois la représentation de mes professionnels et la représentation de musique, je peux la jouer facile en disant, vous voyez, quand on n'est pas dans la pièce, on n'est même pas capable de parler des instruments de musique. Mais c'est une bonne entrée. C'est un catch, ça accroche l'oreille et l'œil. Mais fondamentalement, je reste quand même... je me dis qu'il y a des conversations qui n'ont plus eu lieu pendant deux siècles parce qu'au 19e, quand c'était cette course à l'invention, cette course au brevet, savez-vous que Erard, le frère Erard, est allé s'installer à Londres. Pourquoi à Londres pour les harpes? Parce qu'à Londres, on obtenait les brevets plus vite qu'en France. C'était là, c'était la place où on avait les brevets plus vite. C'était un monde fou. Et là, ce monde-là, avait une véritable interaction avec la vie musicale et l'instrument de musique était sans doute présent dans les conversations. Il ne l'est plus, quand bien même on a du matériel de dingue comme Olivier. Et
qu'est-ce qui est dingue, le matériel ou moi?
On en discutera plus tard. Mais en tout cas, toujours est-il que pour moi, cette disparition de l'instrument de musique est pour moi une question dont on peut parler puisque on a encore pour quelques années encore des instruments de musique.
Oui, quelques mots simplement. Donc un programme de recherche imaginaire, ou alors s'il reste quelques millions là, sur le gros tas. Comment dirais-je? Il y a une chose qui me fascine un petit peu dans l'invention des instruments de musique, c'est qu'il y en a qui ont été inventés dans des cultures sans aucun rapport les unes avec les autres. Par exemple, la cornemuse ou la flûte ont été inventées pas partout, mais dans énormément d'endroits et dans des aires culturelles sans rapport. Je trouve que c'est une énigme anthropologique, philosophique, etc. Et ce qui me donne l'idée d'un programme imaginaire qui serait d'épuiser cognitivement un instrument de musique choisi un peu au hasard ou pas au hasard. Je m'explique. Il me semble que l'instrument de musique relève de... de sciences extraordinairement nombreuses. Bien sûr, l'acoustique, même si on sait que les instruments, sauf les instruments depuis 1920, mettons, n'ont jamais été inventés sur la base d'une théorie scientifique complète existant préalablement, mais que c'est plutôt l'inverse. Les acousticiens aujourd'hui se demandent comment ils ont fait pour construire un instrument alors qu'ils n'avaient pas les données acoustiques que nous avons, et pourtant ça marche. Bon. Mais enfin, l'acousticien, l'économiste, bien entendu, l'historien politique, l'historien du droit, le théologien, car dans beaucoup de civilisations, les instruments ont une signification religieuse, les instruments interdits, les instruments des ténèbres, enfin, toutes ces choses-là, les cloches, bon, voilà, en Europe, hein, mais voilà. Le médecin, l'historien de la médecine, l'instrument aussi des propriétés magiques, et la liste serait longue. Mais c'est pas possible, je crois. Mais réunir un ensemble de gens passionnés par tel instrument de musique, mais qui auraient toutes ces compétences, une quinzaine de compétences diverses, et pour essayer d'examiner l'instrument sous absolument toutes ses coutures, enfin le maximum possible. Voilà, c'est un rêve, c'est assez flou, et c'est pas faisable. Mais je réponds à votre question.
Moi j'en suis, hein. Pardon. J'en suis, hein, de ce programme-là.
Tu en es?
Ah, ouais, ouais.
Ah oui,
oui.
Un joli programme, en effet. Je ne sais pas si, du coup, de votre côté, dans la salle, ça vous parle, ou si vous avez des questions, des réactions, des réflexions sur le sujet qu'on a abordé. Ah, oui, il y a.
T'as un micro, papa.
Oui, je peux peut-être parler fort.
Pas mal.
Alors, nous avons un bariton Martin. Merci, bonjour. Xavier Boutillon, je suis chercheur au CNRS en acoustique musicale, donc je me suis occupé de beaucoup d'essayer de comprendre comment fonctionnaient des instruments déjà existants. Par rapport à la problématique qui a été posée de l'invisibilisation de l'instrument, ce n'est pas tout à fait l'expérience que j'en ai à travers de nombreux contacts avec des musiciens et d'autres pas mal de fabricants d'instruments à la Société française d'acoustique. On a beaucoup interagi avec la CSFI, entre autres, ou d'autres instances professionnelles. J'ai toujours été frappé par une espèce de dualité. Il y a des instruments de musique pour lesquels on se fait l'idée d'un idéal. Le violon étant évidemment le paradigme le plus notable. Il n'est de bon violon que de Stradivarius ou l'idératif de Guarnerius. Et d'autres instruments dont on n'a pas l'idéal, qui sont toujours en évolution. Et pour prendre un instrument de la même famille, la contrebasse, il n'y a pas de stabilisation, de prototype, au moins mental, de contrebasse. Et les instrumentistes, peut-être, là, on rejoint la problématique que vous avez soulevée, c'est-à-dire que je crois que les instruments sont invisibilisés lorsqu'un instrument idéal existe, au moins dans la représentation qu'on en a. Alors que, quand les instruments ne le sont pas, ou sont en évolution, disons, notable, j'ai un très bon ami qui a saxophoniste de grand renom et qui nous a fait encore l'autre jour une conférence sur toute l'évolution du saxophone. Lui, il travaille avec Selmer, mais dans d'autres facteurs, ça va être la même chose. Là, c'est pas du tout invisibilisé. Le piano, alors il y a peut-être la grande majorité des pianistes concertistes ou non, qui, Rorschach, Noël, n'en parlons pas. Et puis, il y a quand même une petite proportion d'instrumentistes qui, et ça se développe peut-être pas mal en ce moment, qui sont intéressés par tout ce qui s'est fait, y compris aujourd'hui, jouer des musiques avec d'autres types de piano, et on continue à innover.
Bon, c'est pas grave.
Voilà, continue acoustiquement.
Donc, voilà. Deux catégories d'instruments. Ceux pour lesquels notre travail d'acousticien de la musique consiste à essayer de comprendre l'idéal, et d'autres à assister aux évolutions. Voilà. Peut-être que ça différencie un petit peu ce que vous avez vu.
Merci beaucoup. Oui, je suis tout à fait. Il y a effectivement quelque chose à chercher du côté des instruments, je ne sais pas si je veux dire fini, abouti, en tout cas pour lequel on a un idéal de son, et ceux qui ne le sont pas et qui sont parfois très proches. Vous avez cité la contrebasse, mais on peut aussi parler de l'alto. Alors que violon et violoncelle, on a quand même des idéaux sonores, si on reste dans cette famille-là, c'est certain. Alors, je vous parlais de l'archet, hein, l'archet qui est resté en évolution pendant quelques siècles avant de se poser, se finir. On est un chouette sujet.
Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de voir?
Merci. Alors une question, enfin une réaction, je ne sais pas trop, je vais peut-être me perdre dans mes pensées, mais je voulais réagir, je me sens particulièrement concerné. Moi, je joue du télé. Peut-être c'est cet instrument qui est donc invisible. Et en tant que musicien, moi, je me trouve à l'inverse très invisible par rapport à mon instrument, qui prend toujours toute la place quand il s'agit d'en jouer. Et au-delà de ça, oui, moi, je trouve qu'il y a une vraie question de catégorisation des instruments de musique et dans la représentation. Si on parle évidemment du violon, des instruments de nature, des guitares, il y a une tradition, il y a une utilisation qui est claire. Dans les instruments modernes, on parle de synthétiseurs, c'est quand même très très différent. On parle de machines, d'objets qui sont fait. Voilà, donc c'est une réflexion plus générale de où est-ce qu'on met le périmètre, puisque la question de savoir si c'est un enjeu central ou annexe, finalement, était par exemple vachement de la catégorie d'instrument qu'on considère, de son histoire, si elle est récente. Il y a des instruments qui sont en évolution permanente, il y en a d'autres qui sont figés. Le thérémine, c'est étonnant, mais finalement, même si c'est assez moderne, il est très figé. Depuis son invention en 1920, on n'a pas bougé de. Ben voilà, c'est de l'antenne, le volume, la hauteur. Ce qui change, c'est la technologie à l'intérieur, le format. Avant, c'était analogique, avec des tubes, puis il y a des transistors, etc. Mais ça reste figé. Pourquoi ça reste figé? Pourquoi ça n'évolue pas? Qui s'approprie? Enfin, vous voyez, je n'ai pas de question, c'est juste une réaction globale, mais dans toute cette discussion, moi, je trouve que c'est compliqué d'avoir des conclusions claires si on définit mal, en fait, ce qu'est l'instrument et oui, quel pont on fait entre un violon, un saxophone, une guitare électrique et un synthétiseur numérique.
Voilà. Oui, effectivement, on voit bien l'idée. Une réaction, Bernard?
Oui, le thérémine, c'est un instrument qui m'intéresse beaucoup, et je trouve que c'est un instrument qui a un destin très étrange, parce que, à ma connaissance, il a très peu de littérature propre, ce sont surtout des transcriptions, et qu'un instrument, enfin, vous me démentirez, hein, puis j'ai moyen de parler avec vous, parce que ça me travaille depuis longtemps, le thérémine, mais quand un instrument n'a pas de littérature propre, il ne prend pas. Et pourtant, je vois qu'il est joué. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les œuvres de Barbac, qui est un groupe de musique populaire que j'aime beaucoup. Il joue du thérémine. Il y a une des musiciennes qui joue du thérémine. Elle en joue de manière bizarre, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle met la main, non pas au-dessus, mais en dessous. Je l'ai interrogée. Elle m'a dit, non, moi, je fais comme ça. Bon. J'ai trouvé ça assez étrange, mais la discussion n'a pas vraiment pris. Voilà. Alors, je vois que, par ailleurs, il paraît que l'appétence pour le thérémine augmente, ça vaut 600, on peut en trouver à 600 euros sur internet assez facilement. Je dis tout ça, c'est en vrac, hein, parce que voilà. Mais c'est un instrument qui n'a pas trouvé son vrai destin. La musique de film s'en est beaucoup servie, Hitchcock s'en est beaucoup servi. Enfin, je vous apprends rien, je me parle à moi-même en fait. Mais j'essaye de comprendre pourquoi cet instrument dont le son est très beau, et qui, je suppose, est très compliqué à jouer, pour des questions de justesse et de stabilité du son, je suppose, hein, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris davantage? Et ça rejoint un peu la question évoquée tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'un instrument prend, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas? Et je dirais que le thérémine, il a pris à moitié, parce qu'il n'a pas disparu. Il y a d'autres instruments, il y a eu beaucoup d'instruments dans les années 20, 30, 40 du siècle dernier, certains ont disparu, bon, le thérémine existe toujours, les ondes Martenot aussi, voilà. C'est pas une réponse en fait, c'est une prolongation de votre question.
Alors, petite blague sur le thérémine, il y a quelques jours, ça fait le 1er avril, vous chercherez, il y a une vidéo donc, de chez Gouille qui a présenté un nouveau thérémine polyphonique, donc avec 2x6 antennes, donc, qui est une très belle démonstration d'ailleurs, qui est très impressionnante. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de lire les commentaires de ceux qui se sont fait avoir. Nous sommes nombreux. et sur pour l'anecdote, moi j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à la SNCF et la contrebasse. Il y a aussi un angle, alors pardon d'être un petit peu matériel sur ça, on a un vrai sujet par rapport à l'instrument, sur le coût des instruments, surtout sur ceux qu'il faut étaler sur plusieurs années. Ça pose pour les musiciens-interprètes, mais également pour les compositeurs, un vrai sujet d'ordre, pardon, fiscal. C'est la possibilité de pouvoir, c'est un instrument de travail, on doit pouvoir le mettre. Alors on peut tout à fait le mettre dans ses frais professionnels si on est aux frais réels, néanmoins c'est des choses qu'ils ont laissé à l'appréciation du contrôleur des impôts quand on a un contrôle fiscal, et qui pourrait dire, monsieur, vous avez besoin de 4 guitares. Vous ne les jouez pas tout en même temps. Je vais essayer de vous expliquer, elles sont toutes différentes. Donc, moi, je ne veux rien savoir, surtout des guitares à ce prix-là. Donc, je considère que ce n'est pas possible. Donc, il y a aussi cet angle-là économique. Et évidemment, on peut parler du coût de certains violons qui ne peuvent même pas être possédés par les musiciens. Et sur les guitares, notamment les guitares électriques, les modèles les plus rares qui se vendent sont achetés par des collectionneurs et peu par des musiciens. Par ailleurs, ça pose un autre sujet, c'est je transporte mon instrument en tournée. s'il est cassé, s'il est volé, et le vol d'instruments, c'est un vrai sujet, il y a régulièrement des publications de gens qui se sont fait piquer leur instrument, comment on fait pour ça? Donc ça veut dire, est-ce qu'on doit prendre un instrument de moindre qualité pour aller jouer en tournée, donc le meilleur, on garde pourquoi? Pour jouer pour soi, il y a un vrai sujet autour de ça, donc je ne sais pas du tout par quel côté il faut le prendre. Mais en tout cas, l'ouvrir, je pense que ça peut éveiller des choses chez les décideurs, enfin les spécialistes de la spécialité de la décision.
Oui, et je voulais peut-être revenir à la notion de la définition d'instrument de musique, parce que vous avez bien compris, nous sommes, de là où je pars, nous sommes des artisans, une organisation professionnelle, on n'est pas des juristes, on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des philosophes, et bien plusieurs fois on nous a dit il faut fournir une définition d'instrument de musique. Et en fait, on a fini par en faire une sur un coin de table parce qu'on en avait juste tellement besoin, c'était indispensable, autrement on n'avançait pas. Et donc, la définition qu'on a mise, et je suis désolée parce que c'est une définition circulaire, on m'a expliqué tout de suite que ça n'allait pas marcher, c'était circulaire. Enfin, voilà. Donc, l'instrument de musique, c'est un objet qui est conçu, fabriqué et utilisé dans le seul but de faire de la musique. C'était pour permettre de différencier, dans le cas c'était des négociations sur les bois, et ça peut-être pourrait différencier les troncs d'arbres de tambours, par exemple. Et donc voilà, en fait l'instrument de musique il a un problème qui commence avec son nom, c'est instrument de musique. D'abord c'est trop long, quand on fait des signes c'est épouvantable, c'est toujours trop long, et en plus l'instrument de musique, c'est instrument qui est le nom le plus valise qu'il soit. Et musique, c'est la musique, mais il n'a pas un nom propre. Et en fait, je pense que une des difficultés qu'on rencontre se matérialise dans ce nom instrument de musique. Franchement, il y en a qui n'ont pas été cherchés très loin là-dessus. Enfin, c'est pour la petite histoire.
Alors, Baptiste.
Pour revenir au sujet de l'invisibilisation, moi je suis dans le milieu des musiques traditionnelles actuelles, et par rapport à l'invisibilisation des instruments de musique et puis des luthiers, ça m'a fait penser à ça. Dans le milieu dans lequel je fais partie, il y a des compagnonnages qui existent entre des musiciens plus chevronnés et puis des musiciens qui sont des musiciens professionnels mais qui débutent dans le métier. Donc c'est des dispositifs qui sont créés par des associations, des sites, différentes choses. Et moi, je fabrique des accordéons et j'adorerais qu'il y ait un compagnonnage aussi dans mon métier et puis dans la lutherie, dans la fabrication d'instruments de musique. Et à ma connaissance, ça n'existe pas. Alors peut-être que dans le milieu de la musique classique, enfin ou de lutherie classique, ça existe, mais dans mon milieu, ça n'existe pas. Je me suis renseigné, bon, ça paraissait plus compliqué. Et du même ordre, dans le même ordre de choses un petit peu, dans le processus de création, dans le processus de création musicale, il y a des résidences, il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais, à ma connaissance également, ça n'existe pas dans le processus de création autour de la fabrication d'instruments de musique. Et il me semble que ce serait un sujet à creuser. Voilà, c'était une réaction. C'est pas vraiment une question, mais peut-être que vous avez entendu parler de dispositifs qui existent autour de ça.
Alors là, oui, je vais rentrer et puis très très rapidement. En fait, on a. Aurélie a parlé tout à l'heure, elle nous a dit au sein de la chambre syndicale, en fait, on a des adhérents directs, mais sur des métiers spécialisés, on a des associations. Et je voudrais citer deux associations qui font. Alors, c'est le compagnonnage à l'heure du 21e siècle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des notions horizontales plus que descendantes et verticales. Donc, il y a la PLG, qui est l'association des luthiers guitares, qui fait des temps de session, de partage, d'informations. Et qui doit être. Vous n'êtes pas la musique avec Calliope à.
Non.
Par contre, il y a une des associations des luthiers violons, puisqu'on sait chic, on en a deux associations de luthiers violons en France. Qui est labellisé Calliope, qui fait des semaines, alors qui fait des rencontres à la Sainte-Cécile, c'est, on reste comme dans la tradition, mais qui sont des temps d'échange et de partage, là, plutôt sur des conférences, mais aussi sur les savoir-faire partagés, mais qui fait également des séminaires de formation, 15 jours tous les ans maintenant, avec des stages de 3 partenaires, et là, vraiment, c'est de pair à pair. Donc, ça peut exister, ça existe maintenant pour ce champ particulier, donc c'est pas de mais ça demande, on est dans un monde, alors là, ce monde artisanal, où il y a vraiment, c'était une transmission de maître à élève quand il y avait encore des maîtres et des élèves, et on a cette rupture, et c'est dans le monde de l'accordéon, c'est vraiment ça auquel vous êtes confronté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu cette passation de maître à élève, puisqu'il manquait de maîtres, et il n'y avait pas toujours les élèves, mais en tout cas, ils n'étaient pas à l'endroit où ils étaient, voilà. Et du coup, maintenant, il faut réinventer cette communauté, mais sur un côté plutôt horizontal, de manière de partage. C'est faisable, on y travaille. Mais par contre, c'est, chez nous, c'est un peu aide-toi, ici, peut-être avant. Donc il faut que la communauté des gens qui s'occupent des accordéons se retrouvent pour constituer. Et par contre, là où nous, on joue un rôle de support, c'est partager les pratiques. Et quand quelqu'un vient le voir en disant ça, on dit « Ah bah oui, tiens, tu devrais discuter avec telle personne de l'association, ils ont mis ça en place, etc. » Eux, c'est un processus de 25 ans, 30 ans, parce qu'ils ont fait ça, parce que cette association, elle s'est fondée en réaction à l'association historique, qui était vraiment dans la tradition du 19e et du 20e, avec les sachants et les gens qui arrivaient et qui n'avaient pas le droit de savoir pendant des années avant qu'ils soient dignes d'avoir une miette de savoir. Évidemment, elle n'est plus ça, cette ancienne ça, mais eux, ils sont arrivés en disant on est luthiers, on est luthiers fabricants, nous, on veut se battre pour les beaux instruments qu'on fabrique, il faut qu'on aille ensemble chercher faire des salons, il faut qu'on aille ensemble. Et maintenant, ils sont arrivés à la place, il faut qu'on se forme ensemble.